Europe 1.
Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Dans le premier épisode de ce récit consacré à Alexandre le Grand, le prince de Macédoine a été élevé pour conquérir le monde et diffuser la culture grecque. Devenu roi après la mort de son père Philippe II, il est convaincu d'avoir le soutien des dieux quand il attaque les Perses à la bataille du Granique. Épisode 2. La conquête de l'Est. Nous sommes en 334 avant Jésus-Christ, dans la vallée du Granique, en actuelle Turquie. Les 40 000 hommes d'Alexandre font face aux soldats perses. Tout le monde est en ordre de bataille et attend depuis plusieurs heures. Sachez-le, l'art de la guerre dans l'Antiquité commence par la guerre des nerfs. Alexandre attend que le soleil soit bas dans le ciel pour lancer l'assaut. Comme ça, les Perses seront obligés de combattre face au couchant. Ils seront aveuglés et leur défense sera moins précise. L'armée d'Alexandre est redoutable. Les phalanges macédoniennes sont composées d'hommes qui se positionnent en formation carrée. Les premières lignes orientent leurs sarisses vers l'avant en direction de l'ennemi. Les sarisses, ce sont des longues lances de 5 mètres de long. En gros, les groupes de soldats macédoniens ressemblent à des hérissons. Il est difficile de percer ce mur de lances et le combat au corps à corps est impossible tant que les soldats n'ont pas jeté leurs sarisses. Alexandre n'est pas du genre à regarder le combat à l'arrière. Une fois qu'il a défini la stratégie de la bataille, il se jette dans la mêlée. Son courage lui vaut d'ailleurs le respect de ses hommes. Mais Alexandre est visible sur Bucéphale et ça le rend vulnérable. Soudain, il est attaqué par des officiers perses. À 2-1, il est en mauvaise posture. Cléitos le Noir, le frère de sa nourrice, s'en est rendu compte. Il vient à son secours et se débarrasse de l'un de ses ennemis. Galvanisés par leur chef, les Macédoniens remportent la victoire. Ils ne comptent que quelques centaines de morts dans leur rang, alors qu'il y en aurait plus de 10 000 chez les Perses. Les survivants prennent la fuite. Ils doivent reconstituer leurs forces pour la prochaine bataille. Quelques semaines plus tard, Alexandre prend la ville d'Éphèse sans difficulté. Il y rétablit le régime démocratique confisqué par l'empereur perse. Ce choix politique lui vaut le soutien des aristocrates de la cité qui le voient comme un libérateur. La prochaine ville qu'Alexandre prend est Gordione. Là, il y découvre une légende très intéressante. Selon ce mythe, Midas se serait imposé comme roi de la région grâce à une prédiction divine. Un aigle envoyé par Zeus se serait posé sur le joug d'un attelage appartenant à son père. C'était un signe divin pour annoncer que Midas deviendrait roi. Ce char avait donc été conservé dans un temple de la ville de Gordione. On racontait alors que la personne qui parviendrait à dénouer le joug de ce char se rendrait maître de l'Asie entière. Alexandre entre dans le temple et observe le nœud en matière végétale fossilisée. On dirait qu'il n'a ni début ni fin. Alors, Alexandre sort son épée et tranche le nœud gordien d'un coup. Voilà la prophétie exaucée. Il n'a plus qu'à prendre l'Asie. Par ce geste, il montre qu'il veut forcer le destin. L'empire perse sera bientôt le sien. On raconte encore que, la nuit suivante, des coups de tonnerre auraient retenti dans le ciel. Pour Alexandre, c'est la bénédiction de Zeus. Quelque temps plus tard, le 1er novembre 333 avant Jésus-Christ, Alexandre se retrouve à nouveau face à l'armée perse à Issos, en actuelle Turquie. Alexandre dirige 40 000 soldats. Il y en a beaucoup plus en face, au moins le double. L'empereur Darius III se tient au centre de ses hommes. Il est protégé et peut diriger la manœuvre. Encore une fois, au mépris du danger, Alexandre se lance avec les premières lignes dans la bataille. Il faut imaginer la poussière qui vole, les cris des hommes, les chocs métalliques des armes, les éclaboussures de sang. Mais Alexandre n'a qu'un seul objectif. Il veut atteindre Darius III, il veut le combat des rois. Pris de panique en voyant ce fou débouler sur son immense cheval noir, l'empereur perse bat en retraite. Darius abandonne ses hommes sur le champ de bataille. Au-delà de la défaite, c'est une infamie. Après la déroute des soldats perses, Alexandre s'empare du camp militaire de Darius. Alors qu'il pénètre dans la tente de l'empereur, il entend des suppliques. Darius est parti en laissant sa mère, sa femme et ses enfants. Alexandre décide de leur laisser la vie sauve et de les traiter avec les égards qui leur sont dus. Cette magnanimité est un geste politique. Elle souligne la lâcheté de Darius. La guerre prend maintenant un autre tournant. Alexandre va partir à la poursuite du souverain en fuite, le tuer et prendre son empire qui est déjà prêt à se donner à son nouveau maître. Alexandre poursuit son inexorable conquête vers l'est. Bientôt, il arrive aux portes de Babylone, en actuel Irak. Les Babyloniens sont tous massés à l'entrée de la ville pour recevoir leur nouveau héros. La ville se livre avec joie et Alexandre franchit en nouveau souverain la mythique porte d'Ishtar. C'est un portail monumental dans l'enceinte de la ville, fait de briques bleues et d'animaux fantastiques. Mais avant de partir plus à l'est, Alexandre fait une incursion au sud vers un antique royaume qui le fait rêver, l'Égypte. Cette campagne très particulière durera de l'automne 332 au printemps 331 avant Jésus-Christ. L'Égypte était alors sous domination perse, mais une fois encore, Alexandre est vu comme un libérateur. La prise de l'Égypte est capitale pour lui. D'une part, c'est le grenier à blé du bassin méditerranéen. Et oui, à l'époque, le climat était moins chaud et plus humide qu'aujourd'hui. Or, si Alexandre contrôle les productions de céréales et les routes commerciales, il pourra veiller au ravitaillement de ses troupes sans aucun problème, où qu'elles soient. D'autre part, le pharaon est un dieu et Alexandre aspire à ce statut. Il se montre donc très respectueux des coutumes égyptiennes. Il visite plusieurs temples et consulte le prêtre du sanctuaire de Siwa en plein désert. Lui aussi semble lui confirmer que les dieux l'accompagnent. C'est là, après cette visite, qu'Alexandre se met à porter une bandelette ornée de cornes de bélier comme on le voit sur les monnaies qu'il a fait frapper. La bandelette en laine blanche dans les cheveux est l'équivalent d'une couronne royale pour nous. Les cornes de bélier, quant à elles, évoquent le dieu Amon qui le protège. Avant de quitter l'Égypte, Alexandre ordonne la construction d'une nouvelle cité portuaire, Alexandrie. Le lieu idéal pour ce projet lui a été révélé en rêve par Homère en personne, l'auteur de l'Iliade mort 3 siècles plus tôt. Homère aurait désigné l'île de Pharos, sur laquelle un phare sera bientôt érigé. Ce bâtiment deviendra l'une des merveilles du monde. Le feu qui brûle à son sommet guidera les bateaux au loin, même dans la nuit. C'est du jamais vu à cette époque. Après avoir assisté à la fondation de sa ville, Alexandre reprend son chemin vers le cœur de l'Empire perse. Il veut mettre la main sur Persépolis, la capitale impériale qui se trouve en actuel Iran. Il y parvient au début de l'année 330. Ses hommes ont déjà parcouru plus de 7000 km. Après une faible résistance locale, Alexandre passe en vainqueur la Porte des Nations, l'entrée monumentale de la cité. Elle est ornée de taureaux à têtes humaines qui symbolisent la puissance de l'empereur. En traversant la ville par le chemin de procession, il découvre le raffinement d'une civilisation qu'Aristote lui avait présentée comme barbare. Après avoir gravi un escalier démesuré, il entre dans l'Apadana, le palais de l'empereur, avec sa salle d'audience gigantesque qui ressemble à une forêt de hautes colonnes supportant un plafond de cèdre. Alexandre est ébloui. Pour célébrer la victoire et la prise de la ville, il autorise son armée à la piller. Le Macédonien met la main sur 1000 tonnes d'or. Alexandre décide de rester quelques mois dans cette cité. Il goûte au plaisir de la vie impériale. Il a même délaissé les courtes tuniques grecques pour les tenues en soie et en coton des Perses. Mais une autre coutume orientale l'attire. Les Perses pratiquent la proskynèse. Ça veut dire qu'ils mettent le genou à terre pour saluer l'empereur. Alexandre veut que, dorénavant, on le salue comme ça. Ses amis grecs et macédoniens tombent des nues. Jamais ils ne se prosterneront devant lui. Les Grecs n'ont pas de problème avec les leaders charismatiques de manière générale, mais traiter leur roi en dieu est un véritable problème philosophique pour eux. Comme les conflits s'apaisent généralement dans le vin, Alexandre organise de folles soirées où l'alcool coule à flot. Tous les excès sont autorisés, les comas éthyliques sont la norme. Mais Alexandre a le vin mauvais. Un jour, enhardi par les brumes de l'alcool, il monte sur le toit du palais une torche à la main. Et il allume un incendie. Il réduit la capitale en cendres comme les Perses avaient brûlé Athènes 150 ans plus tôt. Les Macédoniens quittent ensuite Persépolis, qui n'est plus qu'un tas de ruines fumantes. Le souverain poursuit son avancée vers l'est. Il fonde plusieurs villes nommées Alexandrie et laisse derrière lui des vétérans qui prennent en main les nouvelles structures administratives de son empire. Le souverain est maintenant aux portes de l'Hindoukouche. Il s'agit des marges de l'Himalaya entre l'actuel Afghanistan et le Pakistan. C'est là, en Bactriane, qu'il épouse la princesse Roxane, celle qui lui donnera sa descendance. C'est aussi là qu'il a acculé Darius III. Mais alors qu'il pensait mener la bataille qu'il espérait depuis plusieurs années, il découvre que Bessos, le satrape de Bactriane, c'est-à-dire le chef de cette région, a assassiné Darius. Il pensait lui être agréable. Pour Alexandre, c'est un affront. Bessos l'a privé de sa dernière victoire. Alors, il le condamne à mort. C'est après cet événement qu'Alexandre fête ses conquêtes près de Samarcande. Tout le monde a trop bu et couvre Alexandre d'éloges. Ça fait longtemps que ses victoires lui sont montées à la tête. Fatigué par son comportement tyrannique, Cléitos lui rappelle qu'il ne serait rien sans ses hommes et qu'il lui a sauvé la vie à la bataille du Granic. Furieux, Alexandre le tue en le transperçant d'une lance. Son geste le fait dégriser instantanément. Il vient de tuer l'un de ses plus proches compagnons. Alexandre se jette sur le cadavre, sort une arme et la retourne contre lui. Au dernier moment, ses gardes l'en empêchent. Alexandre, dévasté, décrétera 3 jours de deuil en l'honneur de Cléitos. Après avoir flirté avec les hauts sommets hostiles de la région et mené une bataille épique en Inde contre des éléphants, Alexandre accepte de rebrousser chemin. Ses hommes en ont marre. Leur exploration est allée assez loin. Au début de l'été 323, Alexandre stationne à Babylone. Il est tombé malade après une soirée de beuverie. Les historiens ignorent s'il souffre d'une crise de paludisme, d'une maladie parasitaire, d'une fièvre typhoïde ou d'une pancréatite. Toujours est-il qu'il meurt peu avant ses 33 ans, après 11 jours d'agonie. Alexandre a fait la conquête d'un empire gigantesque en à peine plus de 10 ans. Un empire qui reposait sur sa volonté. Personne ne peut lui succéder. Ses généraux, les Diadoques, se partagent les territoires conquis en 3 empires distincts. Ptolémée, le nouveau maître des terres égyptiennes et premier pharaon de la dynastie ptolémaïque, celle de la future Cléopâtre, emporte le corps d'Alexandre le Grand à Alexandrie. Son tombeau sera un lieu de pèlerinage pour tous les hommes qui veulent lui ressembler, jusqu'à ce qu'on perde son emplacement vers la fin de l'Antiquité. Les raz-de-marée ont remodelé le rivage d'Alexandrie et transformé au fil des siècles le port antique en cité moderne. Mais quelque part, sous la mer, il y a encore le tombeau d'un homme si audacieux, si victorieux et même si béni des dieux qu'il est devenu aujourd'hui une véritable légende. « C'est la fin de ce récit consacré à Alexandre le Grand. Je vous remercie de l'avoir écouté. Son itinéraire vous a impressionné ? Alors laissez-nous des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Au cœur de l'histoire est un podcast original Europe 1 Studio, et c'est aussi un travail d'équipe. À la production, Camille Bichler. À la réalisation, Clément Ibrahim. À la direction artistique, Julien Tarot. À la composition, Julien Tarot et Sébastien Guidis. À la diffusion et à la communication, Kelly Decroix et Romain Vatillas. Quant à moi, l'auteur de ce récit, je vous donne rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. À très bientôt.